Bonjour mes frères et mes sœurs. Peut-on compter sur vous, sur vos promesses, sur vos paroles? Et Dieu peut-il vraiment compter sur vous, sur les promesses que vous lui faites, sur vos paroles? Car Dieu vous a appelé afin que vous puissiez accomplir la tâche qu'il vous confie. Il faut que Dieu puisse compter sur vous. Il faut qu'il puisse vraiment savoir que ce que vous avez promis, vous l'accomplirez. Il faut qu'il puisse savoir que la raison pour laquelle il vous a appelé dans son Église, que vous puissiez vous-même, non pas seulement la connaître, non pas seulement vouloir la faire, mais la faire, l'accomplir. Que Dieu puisse toujours dépendre de vous, de vos paroles. Car Dieu nous a appelés pour une tâche. Cette tâche est importante. Cette tâche n'est pas nécessairement pour nous glorifier, pas du tout. Cette tâche, c'est que nous puissions servir. Nous puissions faire ce que Dieu veut que nous fassions, afin que la voix du Christ, la voix de son retour, vienne le plus possible. Eh bien, voyez-vous, vraiment, notre appel divin dépend de deux choses, de notre fidélité envers Dieu, et qu'il puisse vraiment dépendre de nous, et ensuite de notre persévérance. Nous devons pouvoir persévérer jusqu'au bout. Cet appel divin nécessite en effet de l'assurance de la part de Dieu lui-même pour pouvoir nous aider à accomplir cette tâche. Mais tout dépend de notre caractère. Veut-on vraiment accepter l'appel divin? Veut-on vraiment aller jusqu'au bout? Peut-on vraiment dire « Dieu a raison et nous avons tort » Peut-on vraiment compter sur Dieu dans le sens que même si nous échouons, Dieu ne va pas nous abandonner. C'est ça, voyez-vous, le secret. C'est ça la raison même pour laquelle je vous fais ce sermon aujourd'hui. Car il y a une différence entre la parole divine et notre parole à nous. Nous promettons une chose, nous faisons quelque chose d'autre. Nous voulons vraiment plaire à Dieu et pourtant la première chose que nous faisons, c'est que nous nous plaisons nous-mêmes. Nous tâchons de nous vraiment satisfaire nos propres désirs. Humainement parlant, une chose est certaine. Personne, aujourd'hui, ni demain, ni hier, personne n'est digne d'être sauvé. Car nous, en tant que êtres humains, en tant qu'êtres des êtres charnels, nous sommes pécheurs, nous sommes égoïstes, nous avons péché et nous pécherons encore, car il y a d'abord notre nature humaine qui nous pousse vers la convoitise, et ensuite, il y a aussi en même temps les tentations sataniques. Avec tout ça, d'une part, et d'autre part, nous avons aussi Dieu le Créateur, Dieu suprême, qui ne ment jamais. C'est ça qui compte, voyez-vous. Nous avons besoin d'apprendre, une fois pour toutes, que nous ne sommes pas dignes d'être sauvés, mais que d'autre part, Dieu veut que nous puissions être sauvés si nous tenons parole. Une des choses les plus courantes en ce bon monde, c'est que, voyez-vous, nous avons toujours des excuses. Des excuses pour expliquer pourquoi nous ne faisons pas ce que nous voulions faire. Nous avons des excuses pour expliquer ce qui n'est pas vraiment conforme à notre désir. Autrement dit, nous avons des moyens pour blâmer quelque chose, pour blâmer quelqu'un, au lieu de faire notre tâche, notre devoir. Une chose encore, je dis, est certaine, c'est que Dieu est différent de nous, de ce que Dieu ne ment jamais. Je dis bien jamais, car humainement parlant, voyez-vous, nous avons toujours des excuses, même pour expliquer. Lorsque nous faisons un mensonge, nous disons un petit mensonge. Qu'entendez-vous par un petit mensonge? Nous parlons d'un mensonge blanc. Qu'entendez-vous d'un mensonge blanc? Un mensonge est un mensonge. Soyons honnêtes et disons ce qu'il faut dire. Lorsque nous disons une chose, nous devons savoir que la chose doit être accomplie si il s'agit d'une promesse, si il s'agit d'un devoir que nous devons faire. Voilà pourquoi j'ai dit, il faut que nous puissions toujours, non pas seulement dépendre de Dieu, savoir qu'il accomplit toujours ses promesses, que nous-mêmes, nous puissions toujours accomplir nos promesses. Alors, commençons d'abord à voir, à savoir, à examiner ce que l'apôtre Paul dit en ce qui concerne la nature divine. Je dis bien divine, car nous savons ce que nous sommes, nous autres humains, nous connaissons peut-être nos fautes, mais le fait est que Dieu est toujours parfait. Dieu ne ment jamais. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a écrit dans Tite, chapitre 1, verset 1 à 2, je cite, il dit « Paul, serviteur de Dieu ». Voyez-vous, déjà ce mot « serviteur de Dieu » signifie quelque chose. Que Paul savait pourquoi il avait été appelé pour être serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus. Qui sont les élus? Les élus de Dieu sont vous, c'est moi. Autrement dit, ce que Dieu appelle, ce que Dieu a appelé par le passé, ce sont ceux qui doivent aider à proclamer l'Évangile, à proclamer le retour du Christ, à proclamer la bonté divine, et aussi la persévérance, la patience, l'amour de Dieu à travers nos épreuves. Autrement dit, les élus sont ceux qui ont été appelés pour une mission. Une mission nécessite absolument une dépendance. Vous ne pouvez pas avoir une mission et ne pas vouloir l'accomplir. Il faut qu'on puisse compter, il faut que Dieu puisse compter sur vous afin que vous puissiez accomplir la mission qu'il vous a confiée. Alors, je continue. Tite 1, chapitre 1, verset 1 à 2, dit « Le Dieu est la connaissance de la vérité qui est selon la piété. » Piété, c'est quelque chose, un mot qui n'est pas très facile à savoir, mais piété signifie en même temps une qualité divine dont je vais vous parler dans quelques instants. Alors, une chose est certaine, et je continue, après avoir dit ceci, au verset 2, l'apôtre Paul ajoute, « Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle. » C'est quoi l'espérance? Une espérance nécessite absolument une dépendance. Autrement dit, vous ne pouvez pas avoir une espérance si vous ne pouvez pas compter sur quelque chose ou sur quelqu'un. En ce cas précis, vous ne pouvez pas avoir l'espérance si vous n'avez pas vraiment confiance en Dieu. Continuons. Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise dès les plus anciens temps. Alors, dès ce moment-là, déjà, il y a une condition. Si nous sommes chrétiens, et nous le sommes, nous devons savoir que Dieu a promis dès le commencement quelque chose. C'est quelque chose, c'est la vie éternelle. Et cette vie éternelle nous est promise par un Dieu, comme l'apôtre Paul dit, un Dieu qui ne ment point. C'est ça le titre de mon sermon. Dieu ne ment point. Quelle belle promesse en quelque sorte. Quel encouragement. Quelle assurance pour ne pas vraiment trébucher ou être désespéré, pour ne pas nous décourager. Nous pouvons toujours être heureux, nous pouvons toujours savoir que Dieu ne va pas manquer à ses promesses lorsque nous comptons sur lui et lorsque nous sommes absolument certains que Dieu tiendra sa parole. Notez ceci. Je cite maintenant 2 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 3 à 5. Je prends, voyez-vous, ces versets bibliques afin d'être sûr que nos paroles, nos promesses, nos devoirs doivent être justes et accomplis et que ça soit vraiment tout ça conforme à la volonté de Dieu. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 3 à 5. Nous devons, à votre sujet, dit-il, l'apôtre Paul, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que, il dit, notre foi la foi est quelque chose d'indispensable dans ce que je vous dis. Que votre foi, dit-il, fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Là, vous avez déjà des promesses. La charité, c'est l'amour. Notre foi, c'est notre assurance parfaite que Dieu fait ce qu'il a promis. Et ensuite, que nos devoirs sont toujours accomplis en ce qui concerne Dieu. Et la mission pour laquelle nous avons été appelés. Je continue toujours verset 3. Et que chacun de vous tous, à l'égard des autres, augmente de plus en plus. L'apôtre Paul dit que notre amour envers notre prochain doit augmenter de plus en plus. Mais vous ne pouvez pas avoir un amour envers votre prochain si vous ne tenez pas parole, si vous ne faites pas ce que vous devez faire. Aussi dit-il, verset 4, 2 Thessaloniciens chapitre 3, chapitre 1 plutôt, verset 4, « Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance, notez ce mot, persévérance, et de votre foi, notez encore ce mot, persévérance, foi, au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. » Voyez-vous, déjà, Dieu connaît nos sentiments physiques, nos sentiments charnels, nos besoins. Dieu sait que nous avons des souffrances dans ce bas monde, car Satan le diable est toujours encore en liberté. Donc, l'apôtre Paul nous dit que nous devons nous absolument être certains qu'au milieu de cette tribulation, de cette persécution, nous avons cette persévérance. Un mot extrêmement important. Persévérer dans ce qui est juste. Non pas à vos yeux, mais toujours aux yeux de Dieu. Donc, persévérer dans tout ce qui est juste aux yeux de Dieu. Ensuite, ayez foi que Dieu sera toujours avec vous. Dieu vous aide et Dieu vous aidera. Dieu vous aime et vous montrera le chemin. Mais le fait est que la plupart du temps, nous sommes trop paresseux. Nous sommes trop, je dirais, charnels. Nous sommes trop égoïstes. Nous faisons ce que nous voulons faire au lieu de faire ce que Dieu nous dit de faire. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, dans cet épître-là, des Thessaloniciens, nous montre comment vraiment persévérer au milieu des tribulations et des persécutions. Ensuite, au verset 5, il ajoute, « C'est une preuve du juste jugement de Dieu. » Je m'arrête car, voyez-vous, chacun de ces mots a une grande signification. Ce n'est pas un jugement de quelqu'un, c'est le jugement de Dieu. Et ce n'est pas le jugement, mais le juste jugement de Dieu. Voyez-vous, mettez l'accent là où il doit être mis, alors vous comprendrez ce que c'est que les promesses divines. Pour que vous serez, dit-il, digne, voilà, être digne du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Lorsque vous avez des souffrances, prenez le temps. Et dites-vous, est-ce que je souffre vraiment, vraiment pour le royaume de Dieu? Si c'est le cas, ayez le courage. Si c'est le cas, allez de l'avant avec force. Si c'est le cas, n'hésitez jamais. Ne vous détournez pas de ce que Dieu veut que vous fassiez. Par exemple, prenez l'exemple d'une onction. Une onction, c'est lorsque vous demandez à un ministre de Dieu de vous joindre d'une maladie. Bon, ce serait ridicule, n'est-ce pas? Si vous vous rendez auprès du ministre, vous dites, je vous prie de moindre, et si vous n'avez pas foi que Dieu vous guérira, ce n'est pas le ministre qui vous guérit, ce n'est pas l'huile dont il se sert qui vous guérit. Ce qui vous guérit, c'est la promesse divine de vous guérir. Car Dieu tient parole. Car Dieu a dit dans la Bible, dans Jacques chapitre 5, que lorsque vous êtes malade, appelez les ministres de Dieu et ils vous soigneront de l'huile. Ils apaiseront les mains sur vous et vous serez guéris. Ça, c'est une promesse. Alors, dès ce moment-là, lorsque vous faites appel à un ministre, il faut que vous puissiez être sûr que cette promesse divine sera accomplie en ce qui vous concerne. Comment être sûr? La réponse est simple, car Dieu ne ment point. Il a dit ceci dans la Bible, il vous a fait une promesse, il ne ment pas. Autrement, je répète, ça serait ridicule si vous demandez à un ministre de vous joindre alors que vous avez des doutes dans votre esprit. Mais la question qu'on nous pose souvent, et moi-même parfois je me pose, comment nous débarrasser des doutes, de tous les doutes? Eh bien, ce n'est pas possible de nous débarrasser de tous les doutes, car nous avons toujours, de par les circonstances, Satan le diable, sa présence dans ce bas monde, nous avons notre nature charnelle, autrement dit, nous avons des luttes. Mais plus nous nous approchons de Dieu, plus nous sommes proches de Dieu, ces doutes disparaîtront. C'est humain de faiblir parfois. Mais Dieu est toujours proche de nous. Mettez-vous à genoux devant Dieu. Dites, écoute Dieu, j'ai besoin de force, j'ai besoin d'assurance. Fais-moi savoir. Et une fois que vous avez la réponse, ne tâchez pas d'avoir des détours. Voilà comment même dans un cas pareil, et j'en sais quelque chose. J'en sais quelque chose car j'ai oint dans ma vie beaucoup de gens. Certains ont été guéris rapidement, d'autres moins rapidement, certaines pas du tout. Là encore, voyez-vous, ce n'est pas à savoir pourquoi. La réponse est toujours la même. Ça dépend de nous en quelque sorte, de notre attitude, et en même temps de la façon dont nous prions. En même temps, si nous sommes vraiment absolument convaincus que Dieu tient toujours ses promesses. Et je répète, la réponse est toujours la même. Oui, Dieu tient ses promesses. Mais en est-il de même en ce qui vous concerne? Dieu peut-il compter sur vous, sur vos paroles? C'est quoi la foi? Lorsque vous vous faites oindre et que vous avez la foi, vous pensez, c'est quoi la foi? L'apôtre Paul répond à cette question dans Hébreux, chapitre 11, versets 1 à 2, en disant, écoutez bien, car ceci est très clair. Il dit, la foi est une ferme assurance. Je m'arrête. Ce n'est pas quelque chose que vous espérez, ce n'est pas quelque chose que vous attendez, mais c'est une ferme assurance. Autrement dit, c'est présent, c'est maintenant. Des choses qu'on espère. Ce que vous espérez, ce n'est pas encore arrivé. Mais la foi, c'est la ferme assurance de ces choses, une démonstration, dit-il, de celles qu'on ne voit pas. Autrement dit, si vous avez foi en Dieu, vous savez déjà que vous avez reçu ce que vous avez demandé. Si vous faites votre part, voyez-vous, voilà une méditation importante. Prenez votre temps, pensez à cela. Lorsque vous avez besoin de quelque chose, lorsque vous manquez de foi, mettez-vous à genoux devant Dieu et dites-lui, aide-moi à comprendre si ce que j'espère, ce que je demande est conforme à ta volonté. Auquel cas, il faut que j'aie une démonstration. C'est ça. Ça, c'est la base. Pour l'avoir possédé, autrement dit la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Voyez-vous, lorsqu'on lit la Bible, on a les yeux fermés souvent. On ne sait pas ce qu'on lit, car on est poussé par des pensées égoïstes, par des choses qui nous éloignent parfois du résultat. Lorsqu'on prie, nous devons toujours avoir cette assurance dans notre esprit que ce que Dieu a promis, il l'accomplira. Car Dieu ne ment pas. À travers la Bible, vous trouvez des exemples fantastiques, parce que des preuves que Dieu ne ment pas. Et à travers la Bible, vous verrez des gens qui ont eu cette confiance absolue en Dieu, cette confiance dont nous venons lire la signification, la démonstration des choses que Dieu promet. Et ce que Dieu nous demande parfois n'est pas toujours, humainement parlant, logique. Dieu peut nous demander des choses qui nous déplaisent, humainement parlant. Dieu peut nous demander des choses qui dépassent notre compréhension. Prenez l'exemple d'Abraham, un serviteur de Dieu qui a eu toujours confiance en Dieu. Je dis bien toujours, quand voyez-vous, parfois Dieu lui a demandé des choses qui n'étaient pas logiques. Si Dieu vous demande une chose que vous comprenez, bon, c'est facile à savoir, mais si Dieu vous demande une chose et vous ne pouvez pas comprendre, vous direz, mais pourquoi? Mais pourquoi Dieu voudrait que je fasse ceci ou cela? Dans le cas d'Abraham, il était déjà âgé, et il avait fait ce qu'il devait faire, il a servi Dieu, et voilà qu'un beau jour, Dieu lui dit, écoute, va-t'en dans un autre pays, quitte ta patrie, quitte tes amis. Voyez-vous, ces questions-là n'ont pas beaucoup de signification, parce que nous ne comprenons pas pourquoi. Là encore, la seule chose, la chose la plus importante est de savoir que Dieu ne ment pas, et que Dieu nous aime, et que Dieu veut que nous puissions réussir. Laissez-moi expliquer cela. Dans le cas d'Abraham, notez ce que la Bible dit. Genèse chapitre 12, verset 1 à 4. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays. » Regardez, il y a un accent dans tout ce que vous lisez ici. « Va-t'en de ton pays, de ta patrie. » Voyez-vous, Dieu répète, c'est quelque chose qui t'appartient. De la maison de ton père. Voyez-vous, c'est un peu tiré, mais c'est important. Dans le pays que je te montrerai. Dieu a-t-il montré ce pays? Non. C'est un futur. Autrement dit, vous obéissez à Dieu dans un ordre qu'il vous donne que vous ne comprenez pas, et vous vous détournez ou éloignez des choses que vous aimez et qui vous plaisent. Ensuite, Dieu vous donne, et ça c'est toujours vrai dans la Bible, Dieu a donné à Abraham une promesse. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Une promesse fantastique, mais ce n'est pas encore accompli. Abraham ne l'avait pas vu, ne pouvait pas voir son futur. Il dit, je te bénirai, je te rendrai grand, tu seras une source de bénédiction. C'est fantastique, c'est beau. Mais quelle preuve Abraham avait-il que cela arriverait? Eh bien, la preuve, c'est que Abraham savait que Dieu ne ment point. On peut toujours compter sur lui, sur sa parole. Dieu a dit, encore dit, « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, cela se passe aujourd'hui. Nous voyons à travers le monde, à travers les événements, ces prophéties s'accomplir. Eh bien, si vous aviez une demande pareille de la part de Dieu, quelle serait votre réaction? Le jour vient et le jour viendra où chacun de nous doit prendre cette décision finale, importante. Si Dieu vous confie une chose, si Dieu vous appelle, il faut que vous puissiez répondre comme Abraham a répondu. Et comment a-t-il répondu? Verset 4, Genèse 12. Abraham partit. Voyez-vous, pas de discussion. Pourquoi? Abraham savait que Dieu ne ment point. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Et Lot avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il partit de Charan. Voyez-vous, les promesses fantastiques n'étaient pas encore accomplies dans la vie d'Abraham. C'était au futur. Mais lui, il a accepté l'offre de Dieu. Il a accepté de faire ce que Dieu lui demandait. Et il savait que Dieu sait toujours ce qu'il fait. Parce que Abraham, je répète, avait absolue foi en l'amour de Dieu, l'espérance que Dieu ne ment pas, que Dieu lui a dit, je ferai de toi une grande nation, que Dieu accomplirait cette promesse. Voyez-vous, il en est de même en ce qui vous concerne. En ce qui me concerne, je ne sais pas votre état à chacun de vous, mais je sais que vous avez tous des hauts et des bas comme moi. Nous avons tous des doutes parfois, parce que nous sommes humains, mais si nous avions cette assurance d'Abraham de faire ce que Dieu dit, même si nous ne comprenons pas, de faire toujours ce que Dieu nous demande de faire, même si nous avons des doutes. Débarrassez-vous de vos doutes en toutes circonstances. Sachez que Dieu ne ment point. Ça, c'est le secret. Ça, c'est le grand secret. Ça, c'est votre assurance même, quelles que soient les conditions. Vous savez, je viens de vous dire que Dieu veut toujours que vous soyez heureux. Mais si vous étiez à la place d'Abraham, comment pourriez-vous dire que Dieu veut que vous soyez heureux alors qu'il vous demande, et laissez-moi citer Genèse, chapitre 22, versets 1 à 3, il dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Ça, c'est un autre secret. Lorsque vous avez des épreuves dans votre vie, dites-vous vous-même, est-ce bon pour moi? Est-ce que je peux apprendre quelque chose et ne pas nécessairement changer de voie et suivre mes penchants charnels? Ici, ce que Dieu demande n'est pas logique, n'est pas normal, ce n'est même pas conforme aux instructions divines. Notez-le. Abraham a été mis à l'épreuve, Dieu appelle et il dit, me voici. Dieu dit, prends ton fils. Voilà, maintenant, voyez-vous, ça va trop loin. Un Dieu qui nous recommande d'aimer les uns les autres, un Dieu qui nous dit que nous devons toujours respecter nos parents ou nos enfants, il dit, prends ton fils, hein, encore l'accent, il met, regardez-moi, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays et offre-le en holocauste. Regardez-moi ça. Mais Abraham, humainement parlant, aurait toutes les raisons du monde de dire non, je ne peux pas. Parce que tu as dit toi-même que nous ne devons pas tuer. Alors comment veux-tu que moi, je tue mon enfant? Voyez-vous, ce n'est pas logique. Non, humainement parlant, ce n'est pas logique. C'est même contre la volonté de Dieu. Mais Abraham savait que Dieu ne ment pas et que c'était quelque chose que Dieu demandé peut-être, justement pour le mettre à l'épreuve, je ne sais pas. Toujours est-il qu'Abraham, verset 3, se leva de bon matin, sella son âne, prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac, il fendit de bois, autrement dit, il avait tout ce qu'il devait faire pour l'Holocauste. Et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Je m'arrête. Je ne sais pas quelles étaient les pensées d'Abraham. Mais sachant que d'Abraham, un serviteur fidèle de Dieu, et que Abraham était convaincu que Dieu l'aime, et que Dieu aime son fils, Abraham est parti, peut-être en ayant dans son esprit que Dieu ne ferait pas ceci, n'accomplirait pas cette demande. Je ne sais pas comment, mais je suis certain que Abraham, lui, avait une raison pour obéir sans discuter. Parce que le reste du chapitre explique cela. Lorsque Isaac a dit, où est l'agneau? Qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit, Dieu le fournira. Voyez-vous, il avait ça déjà dans sa tête. Mais enfin, quel que soit le cas, je répète, nous devons avoir cette attitude envers Dieu, cette confiance, cette assurance que Dieu nous aime et que Dieu ne ment pas. Abraham est un exemple. Abraham est un exemple pour nous tous de savoir ce que c'est que la foi et comment vraiment obéir à Dieu en toutes circonstances avec la compréhension absolue, avec la certitude, avec l'espérance même, contre toute espérance, mettons, que Dieu nous aime et que Dieu nous conduira toujours à travers les épreuves. Notez quel a été le secret. Car il doit avoir un secret. Ceci peut arriver à vous, à moi, à des conditions plus ou moins variées ou variables. Mais regardez voir l'attitude d'Abraham. Romains 4, versets 21 à 22. Abraham, ayant la pleine conviction, le mot conviction, j'aime. Vous savez, ce n'est pas une espérance, ce n'est pas la foi, c'est conviction, c'est être absolument certain. Ayant la pleine ajoute quelque chose à la conviction, pleine conviction. Il n'y a pas de doute que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Si vous avez cette compréhension, si dans vos épreuves, dans vos actes, dans votre travail, vous savez que Dieu peut toujours accomplir ce qu'il a promis, il n'y a pas de place pour des doutes. Et pourtant, nous avons des doutes, parce que nous sommes humains, parce que nous sommes faibles. Voyez-vous, ce genre d'attitude, verset 22, c'est marqué, c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Voilà. Voilà l'attitude. Voilà le sujet de cette prière d'Abraham, de ce serment même d'aujourd'hui, lorsque je dis Dieu ne ment point, bien que parfois les circonstances nous créent des doutes autour de nous. Si vous lisez la Bible, vous trouvez d'autres exemples, pas à ce point de la foi, mais de fidélité envers Dieu. Vous trouverez que d'autres serviteurs ont été à ce point-là soumis aux ordres divins. Prenez l'exemple d'un centenier, c'est-à-dire un chef sur 100 serviteurs dont le Christ a parlé. C'est dans le Nouveau Testament. Donc, le Christ a été appelé par un centenier qui lui demande quelque chose. Il paraît que ce centenier avait un serviteur qui était malade. Alors, il s'adresse au Christ et il veut que le Christ guérisse son serviteur. Mais lisez la façon dont la Bible raconte cette histoire. Matthieu 8, versets 5 à 10. Comme Jésus entrait dans Capernaüm, un centenier l'aborda. Autrement dit, c'était un homme qui avait de l'importance. Le priant, disant, « Seigneur, allez voir cette foi, cette assurance. Mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie. C'est grave. Il souffre beaucoup. » Autrement dit, il demande que Jésus fasse quelque chose. Et le Christ lui a dit, « J'irai, je le guérirai. » Quelle promesse! Nous voudrions, nous tous, que nous puissions entendre le Christ nous dire, quel que soit le cas, j'irai, je guérirai. Quelle est la réponse? La réponse du centenier. Lui qui avait demandé au Christ de faire quelque chose, il dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Humilité. Mais dis seulement un mot. Voilà la foi, voilà la conviction. Et mon serviteur sera guéri. Voyez-vous, ce verset 8 explique tout. Il savait, le centenier, que le Christ pouvait tout faire. Et il se voyait tellement petit, lui, qui est un maître lui-même, qu'il n'était pas digne que le Christ entre dans sa maison. Il dit, dis seulement un seul mot. Et mon serviteur sera guéri. Voilà la conviction, voyez-vous. C'est ce dont nous avons besoin. Et comment est-ce qu'il a su ça? Voilà encore une vérité extrêmement importante. Quel que soit votre cas, mes frères et mes sœurs, quelle que soit votre importance dans votre tâche, dans votre maison, dans votre travail, regardez voir une vérité absolue. Verset 9. C'est quand moi, dit-il, qui suis soumis à des supérieurs. Nous sommes tous dans la vie soumis à des supérieurs. J'ai des soldats qui disent sous mes ordres, Je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, il vient, et il vient. À un autre, fait ceci, il le fait. Voyez-vous, autrement dit, il a appris, lui, à obéir avant de vraiment savoir commander. Et ça, c'est important. Il a appris. Voilà pourquoi il se met maintenant à la place du Christ en disant qu'écoute, tout ce que tu as besoin de faire, donne un ordre et cela sera accompli. Voyez-vous, le Christ, verset 10, fut dans l'étonnement. Parce que ce genre de raisonnement, la plupart de nous n'ont pas, n'en avons pas. Il dit, en vérité, dit-il, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi dans Israël. Et c'est vrai, nous avons perdu ce genre de foi. Mais là, il y a un secret, mes frères et mes sœurs, que nous devons vraiment apprendre et comprendre. C'est ceci. Pour pouvoir vraiment commander, il faut savoir obéir. Vous ne pouvez pas vraiment commander si vous n'avez pas appris vous-même à obéir. C'est cette leçon que nous trouvons ici. Il faut que Dieu puisse toujours compter sur vous. Dieu doit pouvoir être sûr que lorsqu'il vous donne un ordre, lorsqu'il vous confie une tâche, qu'il pourra dépendre de vous et qu'il pourra compter sur vous. Lorsque, je répète, vous avez répondu à l'appel de Dieu, lorsque vous savez que Dieu vous a appelé pour une mission, alors rien ne doit vous détourner de cette mission. Il y aura des bas et des hauts, il y aura des épreuves, il y aura des souffrances, mais si vous faites de votre part, vous serez comme ce serviteur qui a été guéri. Guéri de toutes vos maladies, de tout ce qui vous rend malheureux. À une autre occasion, laissez-moi citer Matthieu 21, versets 28 à 31. Là encore, c'est une autre façon d'aborder ce sujet. Le Christ a dit, Matthieu 21, versets 28 à 31, « que vous en semble, dit-il, un homme avait deux fils, et il s'adresse à l'un d'eux, je paraphrase, il dit, mon enfant va travailler dans ma vigne. L'enfant dit, je ne veux pas. » Voilà un enfant qui n'avait obéi, qui n'a pas obéi au désir de son père. Mais, voyez-vous, la différence, voyez-vous, le changement d'attitude. Ensuite, il se repentit. Voilà un mot extrêmement important dans la Bible. Il se repent. Il a dit non, il fallait que j'obéisse à mon père. Il fallait que j'aille l'aider. Donc, il se repent et il va. Alors qu'il avait dit qu'il n'irait pas. Continuons, verset 30. Matthieu, chapitre 21. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et cet autre enfant, il dit, je veux bien, voyez-vous. Maintenant, cet enthousiasme, parfois, qui est vide de sens. Sans réfléchir, je ne sais pas, il dit, je veux bien. Qu'est-ce qui se passe? Ensuite, il change d'idée, il ne va pas. Et le Christ a dit, verset 30, 31, lequel des deux fils a fait la volonté de Dieu? C'est normal. Ils répondirent le premier. Et le Christ a dit, voilà, je vous dis en vérité, les publicains, les prostituées, vous devanceront dans le royaume de Dieu. C'est quoi cette promesse? Voyez-vous, parmi ceux que Dieu appelle parfois, il y a ce genre d'attitude. Mais si ces gens-là s'accrochent à la promesse divine, s'ils se repentent, ils devanceront certains d'entre nous. Dieu a fait une promesse fantastique, le Dieu qui ne ment pas, à nous tous. Chaque fois que nous nous repentons de nos péchés, il répond à nos prières. Entendez-vous cela? chaque fois que vous vous repentez de vos péchés, sans recommencer, Dieu vous pardonne. Cette assurance, voyez-vous, est indispensable dans votre croissance spirituelle. Quelle est votre attitude à l'égard de la promesse que Dieu vous fait? Quelle est votre attitude à l'égard de l'appel qu'il vous a fait? Est-ce que vous pouvez toujours compter sur lui, quelles que soient vos difficultés? Est-ce que vous pouvez mettre sur un côté vos souffrances et sur l'autre côté la promesse divine de vous amener dans son royaume? C'est ça qui est important. C'est cette assurance, cette conviction dont vous avez besoin pour savoir et savoir que vous savez que Dieu ne ment point, que Dieu ne ment jamais. Il y a des gens qui disent, oh, j'ai pleine confiance en Dieu, j'aime Dieu, mais en réalité, ils n'aiment pas Dieu parce qu'ils n'aiment pas toujours leur prochain. Autrement dit, savoir aimer son prochain, c'est savoir comment l'aider, mais non pas nécessairement faire sa volonté ou votre volonté à cet égard. Notez ce que le Christ a dit. Si vous dites que vous aimez Dieu et que vous n'aimez pas votre prochain, il dit 1 Jean chapitre 4, verset 20 à 21. 1 Jean 4, 20 à 21. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui, dit-il, qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et ensuite, il nous donne un commandement. Il dit que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Ce sont des paroles intéressantes, car souvent, c'est ce manque de compréhension qui crée dans notre vie nos difficultés. Dieu parfois nous met à l'épreuve, certes. Dieu parfois nous laisse choisir, certes. Mais peut-être que si vous avez cette compréhension, si vous cherchez la volonté de Dieu, et si vous faites humble, dans ce cas-là, Dieu vous répondra. Rappelez-vous toujours la raison pour laquelle vous avez été appelé à son travail, à sa mission. Parfois, les décisions prises, même au sein de l'Église, ne nous plaisent pas. Souvent, nous ne comprenons pas pourquoi les décisions sont prises. Si vous faites votre part, si vous comptez sur Dieu, car c'est Dieu, en fin de compte, qui est en charge, et vous savez que Dieu ne ment pas, dans ce cas-là, changez votre attitude, changez votre façon de comprendre les choses. Laissez Dieu agir. Vous savez, dans mon ministère, et j'étais ministre assez longtemps, j'ai vu tellement de circonstances où les gens se demandent, mais pourquoi Dieu permet ceci ou cela dans son Église? Eh bien, si vous laissez le temps pour vous, pour comprendre, vous verrez qu'en fin de compte, la réponse viendra. Que Dieu permet ces choses comme il a permis dans le cas d'Abraham ou des autres serviteurs, faites confiance à Dieu, car Dieu ne ment pas. Laissez-le agir, laissez-le faire ce qu'il veut faire. Mais vous, faites votre travail, votre part. Rappelez-vous toujours, un serviteur qui sait obéir, ce serviteur peut aussi se commander. Continuons. L'une des paraboles dans la Bible se trouve dans Matthieu 25, où Christ a parlé justement des serviteurs. Et nous sommes des serviteurs. Il nous a fait, le Christ, une promesse. C'est que nous puissions entrer dans son royaume. Mais il nous a confié une tâche à chacun de nous. Quelle que soit la tâche que vous avez, faites votre part, je vous prie. N'envoyez pas la part de quelqu'un d'autre. Ne soyez pas jaloux. Faites votre part, si minime soit-elle. En fait, je vous assure, d'après ma compréhension, que ceux qui ont la moindre responsabilité seront peut-être très grands dans le royaume s'ils font leur tâche, leur devoir avec honnêteté, conviction et absolue confiance que Dieu ne ment pas. Revenons à Matthieu 25, en ce qui concerne comment servir Dieu. Comment Dieu peut-il nous juger dans le travail qu'il nous a confié? Comment pouvons-nous, nous, lui donner satisfaction? Matthieu 25, verset 14. « Il en sera de même, dit-il, c'est le Christ qui parle, d'un homme, là, c'est lui dont il parle lui-même, il dit, qui, partant pour un voyage, car il est mort, il reviendra, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. » Autrement dit, il a confié une tâche à nous tous à accomplir. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième. Dès ce moment-là, les gens diront, « Ah là là, c'est pas juste. Pourquoi 5? Pourquoi 2? Pourquoi 1 ?» La réponse est dans la phrase suivante. « Chacun selon sa capacité. » Voyez-vous, voilà la bonté divine. Voilà la justice divine. Vous n'avez pas reçu, vous, trop pour ne pas accomplir ce que Dieu veut que vous accomplissiez. Mais ce 6, vous pouvez vraiment faire de votre mieux avec tout ce que vous avez reçu, alors là, vous serez sur le bon chemin. Et vous devez pouvoir faire parce que Dieu vous a donné selon votre capacité. Une fois que vous avez ça en tête et que Dieu ne ment point, alors vous êtes sur le bon chemin. Qu'est-ce qui se passe? L'un, celui qui avait reçu 5 talents, verset 16, il gagne 5 autres talents. De même, celui qui avait gagné 2 talents, il en gagne 2 autres. Mais celui qui n'avait reçu qu'un seul, verset 18, qu'est-ce qu'il fait? Il va enterrer dans la terre et cacher l'argent de son maître. Vous pouvez voir les attitudes. Qu'est-ce qui se passe longtemps après? Et ça, c'est le retour du Christ maintenant, parce que c'est lui, l'homme, qui était parti en voyage. Il demande maintenant à ses serviteurs de rendre compte de ce qu'ils ont fait. Verset 20. Celui qui avait reçu 5 talents s'approche de lui et dit, « Voilà 5 autres talents que j'ai gagnés. Quelle a été ?» Donc, la réponse du Christ. Il voit un serviteur qui avait reçu 5 talents et il en gagne 5 autres. Son maître lui a dit, verset 21, là encore, je voulais tellement analyser ces paroles, mais tâchez de comprendre. Vous êtes la plupart d'entre vous dans l'Église. Vous connaissez ces vérités. Le maître a dit, c'est bien bon et fidèle serviteur. Si jamais Dieu vous appelle un jour bon et fidèle serviteur, vous avez déjà gagné, entre guillemets, gagné votre salut. Et tu as été fidèle en peu de choses. Et ce n'est pas grand-chose, 5 talents. Mais le Christ a dit, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Ce beaucoup peut être beaucoup plus que vous le pensez. Entre, voilà maintenant la promesse importante, entre dans la joie de ton maître. Comprenez-vous cette phrase? La joie de ton maître, c'est le salut. C'est être dans le royaume de Dieu. C'est être fils de Dieu éternellement. C'est en cela que vous entrez. Celui qui avait gagné 2 talents, ce n'était pas 5, c'était 2, reçoit exactement la même promesse. Parce que lui avait reçu aussi selon sa capacité. Donc, les deux, que ce soit 5 ou 2 talents, ont reçu les mêmes promesses. Le Christ a dit, entre dans la joie de ton maître. C'est beau. J'espère qu'un jour moi, nous pourrions entendre dire, entre dans la joie de ton maître. Mais voyez-vous, celui qui n'avait pas fait quelque chose, celui qui avait reçu un seul talent, il avait la capacité de faire valoir son seul talent, le Christ savait. Mais celui-ci a cherché des excuses, a cherché des explications, a cherché des raisons pour lesquelles il n'a pas fait ce qu'il devait faire. La plupart du temps, lorsque vous manquez à votre devoir, c'est parce que vous cherchez des excuses. C'est parce que vous êtes jaloux. C'est parce que vous êtes paresseux. Regardez voir. Celui qui avait reçu, verset 24, un seul talent, s'approcha, dit « Seigneur, je savais, regardez voir les excuses idiotes, je dirais imbéciles même, je savais que tu es un homme dur. » Comment le savait-il? Comment le savait-il? Comment savez-vous que le Christ est dur? À travers la Bible, vous voyez la bonté divine. À travers les promesses du Christ, vous voyez sa bonté. Cet homme-là cherche des excuses, que tu es dur. Et que tu moissonnes ou tu n'as pas semé. C'est juste, là c'est vrai. Le Christ peut moissonner là où il n'a pas semé. Et que tu amasses, là tu n'as pas gagné. Ou bien, là tu n'as pas vanné. Et c'est vrai. Autrement dit, il cherche des excuses et en même temps il sait que le Christ peut tout faire. Verset 25, j'ai eu peur. Vous avez cette attitude, il est normal que vous ayez peur. Mais l'attitude est mauvaise parce que ce qu'il dit n'est pas juste. Dieu n'est pas dur. Dieu lui a confié un seul talent parce qu'il savait que cet homme-là pouvait faire valoir ce seul talent. J'ai eu peur. Dans la Bible, chaque fois que vous avez ce mot peur, tâchez d'analyser. Chaque fois que quelqu'un ne fait pas ce que Dieu lui dit de faire, c'est quelqu'un a peur. Ça a commencé avec le premier couple. Quand ils ont désobéi à Dieu, ils ont eu peur de Dieu. Je suis allé cacher ton talent. Cacher. Dans la terre. Prends-le de t'il qui est à toi. Autrement dit, c'est un raisonnement stupide. C'est un raisonnement qui se justifie lui, cet homme-là, et qui n'a pas de sens. Et il faut bien qu'il s'excuse. La réponse du Christ était normale, tout à fait compréhensible. Verset 26, le Christ a dit, serviteur, méchant et paresseux. Voilà, ça va ensemble, méchant et paresseux. Tu saurais que je moissonne, je n'ai pas semé, et que j'amasse, là, je n'ai pas vanné. Et c'est vrai, il peut. Donc, fais quelque chose. Tu aurais au moins pu remettre mon argent dans une banque. Et j'aurais reçu, dit-il, je paraphrase, ce qui est à moi. En ce qu'elle a été la récompense, le châtiment, si vous voulez. Ôtez-lui donc, dit-il, le talent, donnez-le à celui qui a 10. Mais ça fait étrange. Pourquoi? On donnera à celui qui en a et qui sera dans l'abondance, mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Autrement dit, si vous analysez cette phrase, c'est que nous sommes, nous, dans l'Église, des serviteurs. Nous avons chacun de nous reçu quelque chose. Nous avons chacun de vous une tâche à accomplir, quelle que soit cette tâche. Si nous l'accomplissons, nous serons bénis. Et nous serons davantage équipés pour mieux travailler. Mais si nous ne faisons pas notre part, nous perdons même ce que nous avons. C'est ce que le Christ dit. Voilà pourquoi, si nous avons fait quelque chose, on nous donnera davantage. Et si nous n'avons rien fait, nous perdons même ce que nous avons. Commencez-vous à comprendre. Certains d'entre nous dans l'Église de Dieu, aujourd'hui nous manquons de zèle. Nous sommes faibles et nous avons des excuses. Nous expliquons pourquoi nous sommes faibles. Et vous savez, les excuses, on peut toujours en trouver autant qu'on veut. Mais ce n'est pas ça que Dieu vous demande. Dieu vous demande la fidélité. Dieu vous demande d'être zélé. Dieu vous demande de faire votre tâche, quelle qu'elle soit, avec confiance, avec assurance, avec reconnaissance. Nous avons tous, je répète, comme le Christ a dit, reçu selon nos capacités. Si vous constatez dans la Bible des exemples qui nous sont donnés, vous verrez une chose. que nous ne devons jamais douter de Dieu, que nous ne devons jamais hésiter entre un choix qui nous plaise et un choix qui plaise à Dieu, que nous devons toujours, en toutes circonstances, toujours faire confiance en Dieu qui ne ment point. C'est ça qui est important, voyez-vous, parce que Dieu nous donnera toujours l'aide dont nous avons besoin. Il y a Satan le diable. Dieu l'a permis. Dieu permet à Satan de nous planter dans notre esprit des doutes, d'accord. Mais vous savez aussi que ces doutes ne viennent pas de Dieu, mais ils viennent de Satan. Si à chaque circonstance, lorsque vous avez des doutes, dites-vous vous-même, est-ce conforme à la volonté divine qui ne ment pas? Est-ce conforme à la volonté divine, un Dieu qui nous aime? Est-ce vraiment fidèle aux promesses que Dieu nous fait dans la Bible? La réponse à ces questions vous mettra sur le bon chemin. C'est toujours le même principe. Les doutes ne sont pas de Dieu. Les doutes sont de Satan. Vous devez toujours avoir en tête cette phrase, cette petite phrase, que Dieu ne ment jamais. Vous savez, si vous prenez le temps, vous et moi, nous qui sommes dans l'Église de Dieu, nous sommes entre les hommes les plus bénis en ce bas monde. Vous savez pourquoi? D'abord, parce que Dieu nous a choisis, alors que nous ne sommes pas dignes d'être choisis. Et parce que Dieu nous a confié une tâche qui nous amènera vers son royaume. Une tâche qui peut-être n'est pas très plaisante par moments, mais qui nous donne cette assurance que Dieu nous aime, puisqu'il veut que nous puissions accomplir quelque chose pour le servir. Et nous savons aussi en même temps que Dieu a montré dans la Bible ce qui va se passer. Donc, lorsque moi-même je vois ce qui se passe par le monde, et je viens de rentrer de France, je viens de voir ce qui se passe en Europe, comme je vois ce qui se passe en Amérique, je vois que les choses vont mal, et elles iront de mal en pis. Je le sais. Alors, comme on dit en France, chez nous, un homme averti en vaut deux. Donc, je suis averti par la Bible. Je sais ce qui va se passer. Donc, au lieu de craindre, au lieu de me décourager, je dis non, ce que Dieu a dit dans la Bible est en train de s'accomplir. Voilà pourquoi je garde mon calme face aux circonstances. Parce que je sais que Dieu ne ment pas. Il nous a dit d'avance dans la Bible ce qui va se passer, et c'est ce qui est en train de se passer, vous voyez fort bien. Dans ce cas-là, au lieu de m'effrayer, au lieu de douter, au lieu d'avoir peur, je reste calme et je vais toujours faire de la volonté de Dieu. Je vais toujours avoir le courage parce que je sais que Dieu m'aime et que Dieu vous aime et que Dieu ne ment point. Voyez-vous, Matthieu 24, je vous ai souvent cité Matthieu 24. Si les chrétiens de par le monde prenaient aujourd'hui ce chapitre de Matthieu 24, si les chrétiens aujourd'hui lisaient ce chapitre, les yeux ouverts, et s'ils croyaient vraiment que c'est Dieu, c'est le Christ qui parle, alors ils sauraient exactement où nous en sommes. Parce que le Christ a dit dans Matthieu 24, ce qui se passe aujourd'hui, et qu'il reviendra, alors que beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ne sont pas certains que le Christ viendra. Le Christ a dit qu'il reviendra, et qu'il dit, à son retour, il y a beaucoup de faux prophètes, c'est ce qui se passe, des guerres, c'est ce qui se passe, des souffrances, c'est ce qui se passe, la famine, et ainsi de suite, c'est ce qui se passe. Donc, pourquoi craindre une chose alors que le Christ nous a dit d'avance que ça va se passer? Voyez-vous, c'est ça qui nous donne le courage. Alors, certes, nous devons faire notre part, nous devons être raisonnables, nous devons prendre les précautions nécessaires, mais ne pas craindre. Parce que dans Matthieu 24, le Christ nous dit que ces choses vont arriver et nous dit comment y échapper. Dans ce cas-là, voyez-vous, je me sens à l'aise. Je suis confortable. Je sais que Dieu m'aime et je sais que Dieu vous aime parce que nous avons cette assurance, cette compréhension de ce qui va se passer et que nous pouvons toujours compter sur un Dieu qui ne ment pas. Je répète, ce sont peut-être de simples paroles, mais ce sont des paroles puissantes. C'est la seule façon d'avoir une conviction absolue en Dieu. Les événements s'aggravent, mais notre foi ne doit pas diminuer. Les événements deviennent de plus en plus pires, mais notre assurance sur les promesses divines ne doit pas diminuer. Ce qui compte, voyez-vous, ce qui compte vraiment en toute chose, c'est que notre vie ne dépend pas de ce qui se passe, notre vie ne dépend pas des autres, notre vie dépend du Christ, de Dieu, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui veut nous sauver. Mais ce Dieu a aussi fait des promesses qui ont besoin d'être respectées. Souvent, et j'ai vu même dernièrement en France, des gens qui aiment Dieu, des membres de l'Église même, qui aiment Dieu, mais qui mettent la priorité en ce qui concerne l'obéissance à leurs désirs, leurs parents, leurs propres désirs, ou bien d'autres choses. Le Christ a dit dans Matthieu chapitre 10, si vous aimez les vôtres, votre père, votre mère, vos fils, je ne sais pas quoi, vous n'êtes pas digne de moi. Si vous ne prenez même pas, mettons, vos fardeaux, vous n'êtes pas digne de moi. C'est ça, c'est là où nous faiblissons. Mes frères et mes sœurs, ce qui est en ce bas monde est toujours passager. Ce qui est un amour même envers quelqu'un, envers qui que ce soit, c'est bien, il faut le faire, mais c'est passager. L'amour qui compte, c'est l'amour divin, qui n'est pas passager. C'est l'amour du Christ qui a donné sa vie pour les autres. Voyez-vous, si nous avons ce genre d'assurance, les choses seront différentes dans notre vie. Au Christ, voyez-vous, le Christ a dit dans Matthieu 24, toujours, versets 45 à 47, il dit, « Quel est d'entre vous, dit-il, serviteur fidèle et prudent, que son maître, le Christ, a établi sur ces gens-là pour leur donner la nourriture au temps convenable. » Nous recevons tous la nourriture au temps convenable et nous devons nous-mêmes aider les autres à partager cette nourriture. « Heureux, dit-il, ce serviteur, regardez cette promesse encore, ce serviteur, que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. » Voilà une promesse que ce que le Christ vous promet, vous ne pouvez pas dire « j'ai accompli ». Vous ne l'aurez jamais accompli jusqu'à ce que votre vie vienne à son terme. Autrement dit, persévérez jusqu'au bout. Ensuite, il dit, je vous dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Voilà, le Christ nous promet de nous établir sur tout ce qu'il nous a donné. Voyez-vous, ce sont des choses fantastiques. Je me rappelle dans ma vie, le ministre, les employés, les ouvriers que nous cherchions. Et je me rappelle un chef dans le bureau qui a dit, lorsque quelqu'un se présente pour un travail, certes, je veux être sûr qu'il est capable d'accomplir ce travail, mais avant tout, je cherche si cet individu est fidèle. Si je peux compter sur lui, si je peux compter sur sa parole, si par exemple je peux compter que ce qu'il promet de faire et qu'il m'obéit, qu'il suit mes ordres, je peux compter moi-même sur lui. Et c'est vrai, les employés, les serviteurs les plus effectifs sont ceux qui sont fidèles et qui font leur part avec reconnaissance, avec fidélité, non pas pour recevoir quelque chose, mais pour donner quelque chose. Car c'est ça, la signification du mot serviteur. Un serviteur signifie quelqu'un qui sert. Et nous sommes des serviteurs, car le Christ lui-même a été notre serviteur en donnant sa vie pour nous. Vous savez, peut-être je parle trop en ce qui concerne notre attitude envers Dieu, mais nous ne pouvons jamais être reconnaissants, assez reconnaissants à Dieu pour tout ce qu'il nous fait pour nous. Et parfois, nous hésitons car nous n'avons pas cette conviction absolue que Dieu vraiment est capable de tout faire. Lisez par exemple dans Ésaïe, pour terminer, Ésaïe 54, versets 5 à 10. Il faut que je lise tout ça avec force, avec courage, avec compréhension, car ça prouve la force, je dirais, la force infinie de l'éternel Dieu. Notez-le. Ésaïe 54, verset 5. Car ton Créateur, c'est le prophète qui parle à nous tous, notre Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom, c'est le Christ, et son Rédempteur, et le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Autrement dit, c'est une introduction de du Christ. Quand l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée, au cœur attristé, comme une épouse de ta jeunesse, qui a été répudiée de Dieu, parce que son peuple s'est détourné de lui. Adam et Ève se sont détournés de Dieu. Mais le Christ, lui qui nous aime, regarde la promesse qu'il nous fait. Et c'est ça qui est la beauté. Malgré nos péchés, lorsque nous nous repentons, Dieu nous bénit, Dieu nous pardonne. Quelques instants, verset 7, je t'avais abandonné, dit le Christ. Mais avec une grande affection, je t'accueillerai. C'est Dieu qui parle, un Dieu qui ne ment pas. Dans un instant, dit-il, de colère, j'avais un moment de dérober ma face. Parce que le peuple s'est détourné de lui. Mais avec un amour éternel, dit-il, j'aurai compassion de toi. Formidable. C'est le Christ qui parle, le Christ qui ne ment pas. Ton Rédempteur, notre Éternel. Voilà ce qu'est le Christ. Verset 9. Il en sera pour moi, dit-il, comme des eaux de Noé. C'est quoi les eaux de Noé? Le Christ, à ce moment-là, avait dit qu'il allait détruire toute la terre. Mais il a changé d'avis. Donc, le Christ nous rappelle cette promesse. Il dit, j'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure, dit-il de même, de ne plus me mirer. Je jure de même, dit-il, de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. C'est Dieu qui nous parle. Le Dieu qui nous aime. Le Dieu qui tient toujours ses paroles. Le Dieu qui veut que nous puissions toujours arriver un jour dans son royaume. Ensuite, il finit en disant, verset 10, « Quand les montagnes s'éloigneront, quand les collines chancelleront, il prend des exemples physiques, mon amour, dit-il, ne s'éloignera point de toi. » Vous voyez, ce sont des promesses fantastiques qui dépassent toute imagination. « Et mon alliance, dit-il, de paix ne chancellera point. » Regardez voir. Et pourquoi? Il dit, le Dieu de compassion. Je paraphrase. Compassion signifie un amour qui est capable de partager la souffrance sans jamais se détourner des devoirs devant nous. Et c'est la mission que nous avons tous. La mission de faire sa volonté, la mission de mettre avant toute chose notre devoir de lui obéir, la mission de ne jamais, jamais nous sentir éloignés de Dieu. Dieu nous aime, Dieu veut que nous puissions arriver au but, soyez-en certains, car ce Dieu qui nous fait cette promesse ne ment jamais. jamais et jamais.